Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, en compagnie de Rémi Barré, de la journaliste indépendante de Dijon, et présidente de MeToo Media, Emmanuel Dancourt. On est également avec le journaliste média, mais pas que, Thierry Moreau, et avec le journaliste et écrivain Fred Hermel. On est avec vous également au 3216 et sur l'appli RMC pour réagir dans un instant à la prime JO pour les agents SNCF. On connaît le montant, ce sera jusqu'à 1 900 € pour toute la durée de la compétition. Est-ce que c'est logique ou choquant? On vous attends. À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC. Le zapping, on se demandera notamment s'il faut faire payer l'impôt sur le revenu à tous les Français. Et on se demandera aussi si votre look peut révéler vos idées politiques. Voilà, il y a une étude là-dessus. On vous en révélera le contenu. À 14h, Anne Hidalgo qui s'énerve vivement contre ceux qui râlent contre les Jeux Olympiques. Les Français sont-ils des rabat-joie? À 14h30, RMC Conso, on vous dira tout sur les gnocchis à poêler. Bah, c'est la grande tendance en ce moment dans les rayons des supermarchés. Tout le monde achète des gnocchis. Et puis il y aura Vincent Cirouci, 14h50, dans Estelle Midi, notre humoriste. Et enfin, on vous fera gagner 20 000 €, Rémi.
Oui, c'est la roue RMC, comme la semaine dernière. Tout au long de cette semaine, vous avez jusqu'à 20 000 € à gagner chaque jour sur RMC, dès que vous entendez cette alerte. Une alerte qui peut tomber à tout moment. Vous aurez alors 5 minutes pour vous inscrire en envoyant le mot roue par SMS au 732-16. Roue par SMS au 732-16. 20 000 € à gagner.
Génial.
RMC Estelle Midi.
13h05 sur RMC, on poursuit Estelle Midi avec le chiffre du jour, 95 €. C'est le montant des primes journalières pour les 50 000 agents de la SNCF qui travailleront pendant les Jeux Olympiques. Cela équivaut à 1 900 € maximum pour ceux qui seront sur le pont durant les 20 jours de compétition, Rémi.
Ouais, tu l'as dit, une prime donc qui va concerner l'ensemble des 50 000 cheminots mobilisés durant la période des JO, quel que soit l'endroit de France où il travaille et quel que soit son métier, qu'il soit roulant ou non. Tous ceux à la SNCF qui travailleront durant les JO pourront toucher cette prime. L'indemnité, 95 € bruts par jour, travaillé durant les épreuves sportives, ça fait donc 1 900 € pour 20 jours. Une prime proche de ce que exigeaient les syndicats, les réclamaient 100 € bruts par jour, selon la direction de la SNCF. C'est un accord juste et équitable. Elle estime, la direction, que les cheminots vont voir leur quotidien bouleversé pendant l'événement, je cite, et qu'il est normal qu'ils en aient un juste retour. Cette même direction affirme que le coût global de ces mesures n'aura aucun impact pour les contribuables et pour le prix des billets des clients voyageurs. Bon. Ils ne précisent pas où ils vont trouver l'argent, mais les syndicats n'ont toutefois pas obtenu. Écoutez bien, les syndicats n'ont toutefois pas obtenu, en plus de cette prime, une prime complémentaire comme demandé. C'est-à-dire qu'ils réclamaient une prime sur la prime.
Prime sur la prime?
Oui. Ah oui. En tout cas, s'ils ne sont pas contents, ils ont jusqu'au 4 juin prochain pour signer cet accord.
Enfin, ce serait quand même dommage qu'ils soient pas contents parce qu'ils réclamaient 100, ils ont eu 95. Donc, c'est ce qu'on appelle une bonne négo. Tu vois, normalement, s'ils sont pas contents, alors là, je ne comprends plus rien. Et en tout cas.
On va rappeler juste pour ceux à qui ça aurait échappé. Qui n'habite pas en région parisienne, que cette ultime négociation, elle s'est faite dans un contexte de grève, puisque mardi, il y a eu grève très très suivie en Ile-de-France pour ce qui est de la SNCF Transilien.
Alors, jusqu'à 1 900 € de prime pour les Jeux Olympiques, est-ce que c'est logique ou choquant, Emmanuel Dancourt?
Moi, je trouve ça logique, puisqu'en ce moment, on achète la paix sociale pour que les JO se passent bien. Donc, je trouve qu'ils ont eu raison de jouer leur carte. Et puis après, est-ce que c'est choquant? On est sur un événement exceptionnel, on est donc sur une prime exceptionnelle, c'est quand même le principe de la prime. C'est pour 2 mois. Moi, je suis pas choquée plus que ça, je suis contente pour eux, tant mieux. Ils ont bien joué leur partie, ils n'ont pas eu la prime de la prime, comme tu dis. Bon, je pense qu'ils vont pouvoir s'en contenter quand même.
Pas sûr.
Écoute.
Ouais, 5 €, ça peut faire une petite demi-journée de grève quand même.
On verra. Moi, je trouve qu'ils ont bien joué la partie et que, effectivement, ça va bouleverser, roulant ou non roulant. Oui, parce que même ceux qui ne roulent pas, ils vont être aussi bouleversés, ils vont devoir gérer les choses. Moi, ce qui me chagrine en fait dans cette histoire, c'est qu'on parle jamais des sous-traitants qui nettoient les TGV, de toutes ces personnes qui sont payées au rabais avec des sous-traitants qui ne sont même pas des entreprises françaises. Et évidemment que ça ne va pas se répercuter sur les sous-traitants.
Ça va pas.
Donc c'est dommage qu'eux ne puissent pas en profiter, quoi. Toutes ces personnes qui nettoient les TGV notamment.
Après, moi, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est pour tous ceux qui vont travailler durant les JO, quelle que soit leur ligne. Par exemple, si la personne qui est conducteur de train, du conducteur de train qui fait Paris-Limoges, Je veux dire, il y a oui. Est-ce qu'elle, elle aura cette prime alors que de toute façon, en fait, des trains Paris-Limoges,
bien sûr,
ça circule même les autres années au mois d'août.
Oui, donc, mais sauf que
si tu fais pas plus que ton boulot,
Paris-Limoges va avoir risque d'être impacté. Peut-être par toute la réorganisation pour les JO. T'en sais rien, même s'il n'y a pas de JO.
Pas là le plus gros impact.
Ouais, mais nous, souvent, on ne connaît pas les métiers des autres.
Pour avoir été,
dans un PC de la SNCF,
c'est des
boulots de dingue. On ne connaît pas la complexité de ces métiers-là. Et il est fort probable que Limoges, Dunkerque, Périgueux soient peut-être impactés. Donc pourquoi pas.
Mais en fait, tout dépend. Après,
c'est que de la réorganisation en permanence.
Encore une fois, je veux dire, ces trains, ils circulaient en 2023, ils circuleront en 2025. Je veux dire, là, aujourd'hui, les hôtels ne sont pas pleins à Paris hein, pour les JO. Tous les gens qui voulaient louer leur appartement à Prix d'Or, moi, je connais personne qui a réussi à louer son appartement.
Bien fait.
Donc, en fait, non, mais ça, c'est possible. Mais toujours est-il que, en fait, on s'attendait à une affluence monstrueuse. Aujourd'hui, en tout cas, elle n'est pas sûre du tout, cette affluence.
Qu'est-ce que ça dit de ces fameux JO dont
on parlait? Il y a des gens qui bossent en août à la SNCF d'habitude. Ça veut dire en août, enfin je crois.
Ben ça veut dire qu'ils n'ont peut-être pas réussi à en faire cet énorme événement populaire qu'on attendait. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans le débat d'après.
C'est choquant ou pas, Fred Hermel, cette prime JO pour tous les agents SNCF qui bossent plus ou pas d'ailleurs?
C'est-à-dire, ce qui est le plus choquant, alors c'est choquant, mais le plus choquant, c'est 50 000 personnes. 50 000 personnes concernées par cette prime.
Oui, mais si elles sont 50 000,
tant mieux pour eux.
Ouais, enfin, excuse-moi, il n'y a pas 50 000 conducteurs de train et 50 000.
Non, mais en fait, t'as les agents SNCF qui vont aiguiller les touristes et tout ça.
Alors, dans ce cas-là, les habitants de Paris, dont plusieurs nous faisons partie, allons être impactés par les JO.
Faut demander une prime.
Une prime, moi.
Bah, tu peux toujours demander.
Non, mais toi, on t'empêche pas de partir en vacances, Fred. En fait, ces gens-là ne pourront pas partir en vacances sur ces congés-là.
Argumentaire, après, tu me reprendras si tu veux.
On peut discuter
quand même. Tout le monde est impacté par ça. Dans toutes les professions, on a des moments où on a des moments plus difficiles. Toutes les professions. Si à chaque fois que je devais terminer, par exemple, un truc tout con, hein, quand il y a des prolongations d'un match, je travaille plus tard. Je ne frappe pas en disant petite prime pour ça. Non, à partir du moment où on fait un métier, on accepte les aléas de ce métier et par moment, moi l'équipe que je suis elle est éliminée rapidement, ce jour-là je vais pas travailler, on me baisse pas mon salaire, c'est pareil pour les employés.
Tu te rends compte que c'est toi qui es en CDI au chaud dans une entreprise.
Les SNCF, ils sont aussi en CDI. Hein.
Non, mais c'est pas le truc. Mais c'est moi qui suis indépendante, qui n'ai droit à aucune prime, aucun chômage, aucun rien. Mais juste ça. Juste moi indépendante. Je trouve que je suis contente pour eux, pour ces 50 000 personnes. Et je trouve qu'on pourrait se réjouir pour eux. Mais non, ils viennent de le dire. C'est pas nous qui payons.
Voyons. Ah bah alors ça va alors.
Attends, mais prends-les au pied de la lettre. Ils viennent de le dire. Attendons de voir. Attendons de voir. Comment ils vont renflouer, ce sont nos impôts qui vont renflouer, ce sera nous.
Clairement, la gabegie continue, c'est clair. On a décidé que c'était le quoi qu'il en coûte pour les JO.
Ouais.
On est en plein dedans. On est en train d'éteindre avant même qu'il y ait les flamèches, tous les feux sociaux qui pourraient s'allumer au moment des JO, parce qu'on veut que ce soit absolument impeccable. Donc ça. Et alors, pour te répondre, les économistes commencent à évaluer le coût. Ça pourrait aller jusqu'à 235 millions d'euros. Et encore, il reste les douaniers qui vont revendiquer et les pompiers qui vont demander aussi une prime.
Donc on
attend pour l'instant la fin des négociations pour avoir la note globale. Alors 235 millions c'est au maximum puisque ça dépendra des jours travaillés ou pas suivant les gens. Mais là où je trouve ça scandaleux, c'est qu'évidemment le type qui est au fin fond du Perche, il va évidemment pas être impacté par les JO. Faut arrêter. Peut-être qu'il y aura peut-être pas tout à fait le même nombre de gens dans le train, ou il sera peut-être obligé de faire une heure de plus, etc. Ça vaut pas 1900 euros de prime. Faut arrêter. Et surtout le côté syndicat d'avant-garde et ça va ruisseler. Je pense à tous les indépendants, je pense à tous les gens dans les petites entreprises qui vont être aussi très impactés par les JO. Je pense notamment aux livreurs
au restaurant, qui
ne pourront pas accueillir leurs clients, qui ne pourront pas livrer leurs clients. Ceux-là, ils ne peuvent pas demander de prime. Ils sont soit auto-entrepreneurs, soit dans une PME.
Mais on n'a pas de syndicat.
Et là, ils sont sur le carreau. Donc, non, je trouve que là, pour le coup, je ne peux pas être content pour eux parce que, un, il n'y aura pas ruissellement. Et deux, je trouve ça inégalitaire par rapport à tout le monde. Soit on dit, tous les Français impactés, on examine votre dossier comme on a fait au moment du Covid.
Moi, c'est ça qui me gêne.
Un pouvoir et ce n'est pas. Je sais que le terme peut-être péjoratif, mais c'est ce que disent les syndicats aussi. Ils ont un pouvoir de pression, si on veut.
De nuisance, on va dire.
qui est sans commune mesure
que le
avec
petit livreur ou que le petit restaurateur n'aura pas. Bah, voilà.
Après, moi franchement, je trouve pas ça illogique de demander une prime pendant les JO, mais sauf si tu bosses plus. Oui. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est pas des nouveaux trains. C'est-à-dire que les trains, ils circulaient avant, ils circuleront après. Et il y avait des gens déjà à la SNCF qui travaillaient au mois d'août. Donc en fait, ces gens-là, ils vont pas travailler plus, pas travailler moins. C'est juste que peut-être il y aura plus de gens qui travailleront. Mais alors après, bravo à ceux qui qui devaient travailler au mois d'août, qui vont travailler au mois d'août, ouais, et qui vont gagner une prime de 1900 euros. Et tant mieux. Et franchement, moi je dis tant mieux pour eux. Soyons heureux pour eux. Mais quelque part, il y a un truc illogique à ce que quelqu'un qui fasse juste son boulot soit payé plus. Et encore une fois, Fred a raison de le dire. Tu as beaucoup de gens qui vont être impactés à Paris durant les JO.
Rien.
Beaucoup de gens qui vont être empêchés d'aller bosser. Aujourd'hui, il y a déjà des métros qui sont fermés. Il y a des ponts qui sont fermés. Il y a des gens qui mettent une demi-heure, voire une heure de plus pour aller au boulot le matin à Paris. Mmh. Et eux, eh ben, ils ne sont pas dédommagés, en fait.
J'ai un témoignage dans le sens sur Direct Studio. C'est Michel qui nous écrit, en colère, en pétard, Michel. Ah. Il nous dit, je suis routier de nuit sur la région parisienne. Voilà. En ce moment, avec toutes les fermetures pour rénover les routes pour les JO, je galère. Je rajoute 2 heures de boulot par rapport au temps normal. Oui. Situation exceptionnelle. Et pourtant, je n'ai pas de prime. On n'a pas tous le même pouvoir de négociation. Insupportable.
Et encore une fois, les restos à Paris, il n'y aura pas de livraison, par exemple, pendant la journée. Donc il y a beaucoup de restos qui vont devoir fermer parce qu'ils ne seront pas livrés à temps, ou ils vont devoir accueillir les livraisons la nuit. Ça va être un bordel, pour parler trivialement. Et eux, ils n'auront pas de prix.
Là, c'est la puissance des syndicats.
Mais, voilà. Mais qui se focalisent sur ces bastions pour défendre ces bastions.
Mais tout le monde
plutôt que de défendre tout le monde.
Bastions.
C'est tout.
Et tant mieux pour les syndicats, parce que je pense que ça peut pousser aussi des Français à syndiquer, ce qui ne serait pas une mauvaise chose. Là, pour le coup, ils ont quand même gagné aussi cette bataille. On est avec Wissam qui nous appelle de Dijon. Bah, tiens, ça va faire plaisir. Emmanuel, et qui est contrôleur SNCF. Bonjour Wissam.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Wissam, vous travaillez pendant les Jeux ?
Alors non, moi je ne travaillerai pas.
D'accord. Et vous ne dites pas, tiens, j'aurais dû travailler, j'aurais pris 1900 euros.
Non, mais après, il y avait un choix à faire, c'est-à-dire ou bien aller en vacances avec mon épouse et mes enfants, ou bien travailler et puis ne pas en profiter avec eux. Et j'ai fait ce choix-là. Voilà.
Et Wissam, cette prime, vous la trouvez justifiée, vous ?
Bien sûr, complètement. Le travail pendant cette période, ça va pas du tout être le travail qu'on fait habituellement, même en période de forte affluence, même pendant les vacances. Je vous écoutais dire oui, tous les trains roulent en mois d'août, il y en aura l'an prochain tout. Ça ne va pas du tout être un mois d'août classique, pas du tout.
Ça dépend sur quelle ligne.
Comment ?
Ça dépend sur quelle ligne.
En tout cas, toutes les lignes qui vont relier Paris, d'où qu'elles partent d'ailleurs, parce que je pense qu'on aura des touristes qui viendront pas que pour les Jeux Olympiques, mais qui seront profiteront aussi pour visiter la France. Ce qu'on a eu pendant la Coupe du Monde de rugby, on avait des Néo-Zélandais qui venaient à Beaune
pour visiter les hospices
et qui en profitaient pour aller regarder des matchs à Lyon ou ailleurs. Et du coup, on va avoir une affluence de voyageurs beaucoup plus importante qui va s'additionner aux voyageurs aux vacanciers en fait.
Mais oui, ça, j'ai une question. Alors, vous êtes contrôleur. Évidemment, c'est pas la même chose de contrôler 500 personnes et d'en contrôler 3. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais quand vous êtes conducteur de train, que vous conduisiez 500 personnes ou 100, excusez-moi, ça me paraît être la même chose ou je suis folle?
Alors, attention, le conducteur de train aujourd'hui, il lui arrive de fermer les portes, donc de gérer les montées, les descentes, la sécurité. Et conduire un train, c'est pas anodin.
Non, mais j'entends, ouvrir une porte. Alors, peut-être. Non mais ouvrir une porte, est-ce que ça nécessite, je veux dire, 1900 euros de prime, je ne suis pas sûre. Ce que je veux dire, c'est que, ok, il a peut-être plus de portes à ouvrir, mais on n'est pas sur non plus.
Non, c'est pas qu'il y a plus de portes, c'est que en termes de responsabilité, en termes de flux de voyageurs, en termes de d'attention et de travail. C'est pas du tout. Ça va vraiment. Bah,
excusez-moi, il y a pas plus de gens dans le train. C'est-à-dire, le train, il est plein. Il n'y a pas plus de gens dans le train pour le contrôleur.
Mais il y a peut-être plus de touristes qui savent moins comment ça se passe. Je sais rien.
Non, le train, il va être plein, il va être bondé, et un train bondé, il faut venir le voir pour le.
Certes, mais c'est pareil. Oui, mais pardon, mais pour le trafic croisé des vacances, c'est la même chose.
La SNCF a déclaré que l'offre ferroviaire ne sera pas modifiée. L'été, c'est déjà une période intense du côté des chemins de fer, et tout est déjà prévu pour accueillir un grand nombre de voyageurs. Voilà ce que dit la SNCF.
Oh là. Et avec ça, il va falloir le personnel.
Mais quand il y a deux contrôleurs par train, qu'ils soient vides ou qu'ils soient pleins, il y aura deux contrôleurs.
Il y aura alors deux ou un d'ailleurs, ça dépend des trains.
TGV.
Mais TGV 2. Et quand vous avez plus de monde, vous avez forcément plus de travail, plus d'attention.
Oui, ça c'est vrai. Non mais oui, ça c'est sûr.
La sécurité, hein. Ne serait-ce que la sécurité, il faudra être vigilant. On sera les premiers vigilants aussi. Donc c'est
non mais ça c'est très bien.
Chose, hein.
Non mais c'est vrai.
Eh ben écoutez, merci beaucoup Wissam en tout cas d'avoir été avec nous. Wissam qui lui a quand même préférer partir en vacances plutôt que de bosser pendant les JO, malgré cette prime. Voilà, donc elle n'est peut-être pas si attractive que ça. Rémi Barret, on verra le 4 juin.
Il avait posé ses vacances avant, à mon avis.
De quoi ?
Il avait posé ses vacances avant la négo. Bah,
il est toujours possible de faire quelque chose, mais on verra si tout le monde se réjouit du côté des syndicats d'ici le 4 juin. Notre invité sur ce débat, c'est Arnaud Aimé. Il est spécialiste transport du cabinet SIA Partners. Attendez, excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a, Rémi ?
Non, mais ça me fait sourire, c'est pas gentil pour les finaux. Mais j'ai ce message de Tibi qui nous dit effectivement le boulot va changer, ils vont devoir contrôler les voyageurs et faire en sorte que le train arrive à l'heure.
Ok, bon, très bien. Non, ça fait pas rire, Emma.
Non, parce que moi, je suis contrôlée à chaque fois et je suis toujours dans des trains qui arrivent à l'heure. C'est rarissime. Donc, c'est pour ça.
Bonjour, Arnaud Aimé.
Bonjour, Estelle.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Arnaud Aimé, je le rappelle, spécialiste au transport du cabinet SIA Partners. Est-ce que finalement, vous trouvez, Arnaud, que les syndicats ont vraiment bien mené leur barque, bien négocié dans cette affaire ?
Je pense qu'ils ont effectivement plutôt bien négocié. J'ai l'impression que la base est satisfaite. Cela dit, la direction aussi. De la SNCF, elle a plutôt bien plutôt. Alors déjà,
quand vous donnez 95 alors qu'on vous a demandé 100, c'est quand même
dire
pas.
Il faut dire ça aux usagers de la région parisienne qui étaient en galère pas possible mardi. Hein.
Oui. Alors, c'est sûr qu'on pourrait débattre de la grève préventive faite par certaines organisations syndicales hier. J'en ai été victime aussi. Ouais, donc je suis bien d'accord avec vous. Mais cela dit, sur le fond du dossier, ce qu'a fait la direction de la SNCF comme la direction de la RATP par exemple, c'est d'accord, on accorde une prime. Mais c'est une prime, par principe, par définition de la prime, qui est provisoire, transitoire, à hauteur de la durée des jeux. Je veux dire, ça a beaucoup moins d'impact financier pour l'entreprise que des augmentations de salaire.
Oh bah ils les ont eu aussi. Hein.
Suite à des grèves ou des menaces de grève pour les JO.
Mais ils les ont eu aussi, Arnaud.
À la fin des Jeux Olympiques.
Ils les ont eu aussi, les augmentations de salaire. Ils les ont négociées il y a quelques semaines.
Les cheminots, comme les agents de la RATP, comme beaucoup de personnes, je ne sais pas comment c'est chez RMC, ont obtenu aussi, à l'occasion des négociations annuelles obligatoires, effectivement, des augmentations de salaire qui sont assez alignées, finalement, avec l'inflation qu'on a connue ces deux dernières années, effectivement. Mais je pense qu'il ne faut pas mélanger les sujets. Là, en l'occurrence, le montant de prime qui est versé, bon, alors c'est vrai que c'est 1900 euros, c'est un montant conséquent, mais qui est versé pendant une vingtaine de jours, multiplié par les gens qui, effectivement, seront au travail, ce qui n'est pas le cas de tous les cheminots. En fait, ça pèse pour presque rien dans le budget de la SNCF, en fait.
Mais Arnaud Aimé, concrètement, est-ce que ces agents SNCF, ces 50 000 agents SNCF, vont tous avoir un surcroît de travail ?
Non. Non, ils vont pas tous avoir un surcroît de travail.
C'est ça le souci.
Je sais pas si c'est un souci. C'est-à-dire que c'est la contrepartie pour certains d'un surcroît de travail ou de conditions de travail plus compliquées. Encore une fois, moi, je suis pas un défenseur absolu des cheminots ou des agents de la RATP, mais je parle pour la région parisienne en particulier, on sait que les réseaux vont être saturés sur certaines lignes. Pour ce que j'appelle la première ligne. Donc les contrôleurs, les agents aussi dans les gares, les agents d'escale, et aussi les conducteurs quand c'est eux-mêmes qui doivent assurer la sécurité des portes dont je vous parlais tout à l'heure, quand c'est la cohue, il y a quand même une pénibilité supplémentaire. Par contre, c'est vrai que tout le monde ne va pas avoir plus de travail en plus, mais il y a les gens qui ne vont pas avoir de travail en plus, mais à qui on a exigé, en tout cas demandé de manière insistante, de ne pas partir en vacances pendant l'été, alors que c'est ce qu'ils font chaque année et qu'ils partent d'habitude avec leur famille. Donc c'est aussi...
Mais encore une fois, il y a déjà des gens de la SNCF qui travaillent durant les vacances. Oui, en fait, encore une fois, tant mieux pour les agents SNCF et bravo à eux d'avoir super bien négocié. Mais c'est comme si vous étiez payé en heures supplémentaires alors que vous terminiez à la même heure. Vous voyez, en fait, c'est-à-dire que quelque part, il y a des agents qui vont évidemment mériter cette prime et ample parce qu'ils vont avoir un boulot de dingue, mais d'autres qui vont...
Les chauffeurs de VTC en région parisienne, vous ne pensez pas qu'ils vont se faire un pognon de dingue, comme dirait le...
Mais ils bossent en plus. Mais ils bossent en plus.
Donc ils ne pourront pas circuler, là.
Non, ils ne vont pas bosser en plus.
Mais ils vont majorer leurs tarifs, évidemment, mais ça, c'est l'offre et la demande.
Et une heure de... Oui, c'est l'offre et la demande.
Sauf que là, on parle de la SNCF, c'est une entreprise publique, je le rappelle.
Il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est l'État, c'est-à-dire nous.
Vous avez tout à fait raison. Ça dit, encore une fois, l'impact financier pour moi, il est minime. Ceux qui vont payer en plus, par contre, je voudrais souligner pour aller dans votre sens quand même, autant le contribuable, ça n'aura pas d'impact, et pour le consommateur de TGV non plus, et pour l'abonné en Île-de-France non plus. Par contre, les touristes, et notamment étrangers, qui viennent en région parisienne et qui vont s'acheter des titres de transport à l'unité, ce qu'a dit Valérie Pécresse, la présidente de l'Île-de-France, la région d'Île-de-France, c'est on va augmenter très très fortement le prix des tickets unitaires, donc les tickets qui sont pris par les touristes.
4 €, oui.
Voilà, 4 €, ce qui est très fort.
Donc, c'est pour ça qu'il faut acheter les tickets maintenant.
Les touristes, faut quand même assumer, les touristes, eux, ils vont casquer. Bon, ils sont achetés à
100 €
ou à 1000 euros, bon.
Oui, que le touriste japonais paye un peu plus son billet. Enfin,
certains vont sortir d'Orgo, mais c'est vrai, sachant que pour connaître un peu le sujet, on paye pas trop cher en France par rapport aux autres réseaux urbains, à Londres ou ailleurs.
Exactement. Alors, je voudrais qu'on entende tout de suite Mika, qui nous appelle de Montigny-les-Cormeilles, dans le Val d'Oise, mais qui est fonctionnaire à la mairie de Paris. Bonjour, Mika.
Bonjour.
Mika, vous travaillez pour les JO?
Alors oui, je vais travailler pendant les JO puisque j'ai pris mes congés d'été début juillet et je vais rentrer donc avant la cérémonie d'ouverture qui sera le 26 juillet.
Ah ben comme moi.
Et donc voilà, j'ai pris mes congés puisque j'étais volontaire pour travailler pendant la période des JO.
Et est-ce qu'à la mairie de Paris, parce qu'on sait que vous allez être quand même sollicité pour le coup, est-ce que vous allez avoir une prime pendant les JO?
Mais tout le monde en fait, que ça soit la police, que ça soit la RATP, que ça soit
tous les fonctionnaires, vous voulez dire.
Tous les fonctionnaires territoriaux en fait se sont basés sur la prime police en fait.
D'accord, qui était de 1900 euros.
En fait, la prime police est de 1900 €, mais attention, c'est pas une prime de 1900 € qu'on va nous remettre. C'est une prime plafond. Ça veut dire qu'en gros, il aura fallu être présent du 15 juillet au 15 septembre, sans absence, sans maladie, sans rien, avoir travaillé sur un site olympique, avoir eu des horaires décalés, fait toutes ces choses-là pour pouvoir avoir le droit à la prime.
Ils ont mieux négocié à la SNCF.
Non, mais ça, en vrai, Mika, c'est super. Et ça me paraît totalement logique.
Pour moi qui commence par exemple à 5h du matin, comme les collectes des ordures ménagères avec Paris, ça va être un peu compliqué parce que on va nous demander de décaler nos horaires par exemple à 4h du matin.
Ça c'est normal que vous touchez une prime.
Ça va être un changement de vie ou un changement compliqué et sûrement peut-être poussé un peu plus tard dans la journée. Donc automatiquement là effectivement vous allez avoir le droit à une prime qui correspond en fait aux heures que vous avez fait en plus sur le temps imparti des Jeux Olympiques. Ça commence à, je crois que la première prime, ça va vers 600, 800, 900, 1000, 1200, 1900 € la prime plafond. Ça veut dire que là, vous avez été tous les jours pratiquement sur les Jeux Olympiques et vous avez été présent, donc vous n'avez pas eu de congé d'été, vous prendrez seulement vos congés d'été après le 20 septembre.
Mais alors là, franchement, Mika, effectivement, Rémi a raison, je trouve que c'est très mal négocié parce que 1900 € pour se lever à 4h du mat, pour avoir plus de boulot durant 2 mois.
On dit que la SNCF, on le rappelle, c'est 1900 pour 20 jours et pour tous les agents.
Et pour tout le monde, même ceux qui ne vont pas travailler plus.
Même celui qui fera 7h, 16h, il aura le droit à sa prime.
Donc c'est vrai qu'il y a une distorsion et là, écoutez, bravo à vous, en tout cas, Mika, parce que ça ne va pas être facile. Le boulot effectivement pendant les JO et merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va terminer avec Gilles qui est conducteur de car et qui nous appelle de Lezoux dans le Puy-de-Dôme. Bonjour Gilles.
Bonjour à toute l'équipe.
Bonjour Gilles. Et,
bonjour. Pour moi c'est un scandale.
Ah, carrément.
Pour moi c'est honteux parce que c'est comme d'habitude les syndicats ont défendu leurs copains fonctionnaires. Nous dans le privé rien. On nous dépeuple tous les dépôts de Transdev et de Keolis pour venir renforcer à Paris pour les JO. En province, on aura des problèmes pour transporter les gens et ils auront que dalle. Résultat des opérations...
Faut vous syndiquer, Gilles.
Pardon ?
Faut vous syndiquer.
Ah non. Non, parce que nous, les syndicats, depuis 10 ans, ils nous ont fait perdre toute l'avance qu'on avait sur le SMIC au niveau des salaires et on est défendu par les mêmes qui défendent les gens du public.
D'accord.
Et seulement quand à la SNCF on a une prime de découché de 100 €, nous notre prime de découché elle est de 6 €.
Oula, ah oui.
Notre salaire c'est en moyenne 13 € de l'heure brut. Et voyez là je vais travailler, je vais faire 2 allers-retours entre Clermont et Nantes et je suis heureux de faire mon boulot. J'ai 62 ans, j'ai pas l'intention de m'arrêter. La retraite j'en veux pas et je continuerai à transporter des voyageurs. Mais moi ce qui me scandalise le plus c'est qu'on prenne des usagers en otage parce qu'on a une notion de service public et laisser tomber les gens et leur dire de se débrouiller parce qu'on a envie de gagner un tout petit peu plus, c'est pas normal, c'est pas logique.
Mais je comprends votre coup de gueule, Gilles. Et effectivement, conducteur de car, c'est un métier difficile. Et effectivement, quand lui a 6 euros de prime alors que les autres ont 100, moi, je peux comprendre effectivement sa colère. Parce qu'encore une fois, le fameux ruissellement, on va pas se mentir, il n'aura pas lieu du tout. Et c'est effectivement la SNCF qui va obtenir ça. Mais je veux dire, pas les petits copains d'à côté. Hein. Ça, c'est évident. En tout cas, merci beaucoup, Gilles, pour ce coup de gueule. Merci beaucoup à Arnaud Aimé d'avoir été notre invité sur ce débat. On termine avec des messages. Oui. Rémi, je crois qu'il y en a beaucoup.
Ouais. Je vais pas vous le cacher. Hein.
Allez-y.
Il y a Eric qui nous écrit ce message. Le conducteur SNCF va devoir être plus attentif durant les JO et ne pas faire d'erreur. Donc, il fera juste son travail habituel avec plus de passagers. C'est comme si les cuisiniers demandaient une prime lorsqu'ils font une omelette à 4 œufs au lieu de 2 habituellement. Ah oui, ça double la force nécessaire pour battre l'omelette. Voilà ce que nous dit Eric.
Beaucoup de sarcasme, effectivement, sur l'appli RMC. Le reste de notre sondage, Rémi.
Est-ce que c'est choquant, cette prime aux agents SNCF pour les JO? Oui, c'est choquant pour 72% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Ah, je pensais que ce serait moins. Tu vois, je suis étonné. Ouais, 72% de gens choqués par cette prime. On rappelle qu'il n'y a pas que les agents SNCF hein, qui ont une prime. Les agents RATP, c'est 2500 euros. Ouais. Les policiers et puis tous ceux qui ne l'ont pas encore demandé. Mais ça ne saurait tarder.
Les éboueurs aussi, les éboueurs.
Les éboueurs, évidemment. Allez, dans un instant, sur RMC s'engage avec vous. Alors, je ne sais pas si vous avez tous la fibre chez vous, mais en tout cas, il y a plein de gens qui n'ont pas la fibre et pour qui c'est un énorme problème. On tentera d'aider justement des auditeurs qui se battent désespérément pour avoir la fibre. Et puis ensuite, à 14h, on parlera du coup de gueule d'Anne Hidalgo. Elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente du tout. Elle râle contre le JO bashing. Et nous, on se demandera si les Français sont de plus en plus rabat-joie. A tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h33, vous êtes sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi. Et tout de suite, c'est l'heure du zapping, le meilleur d'RMC. C'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Le meilleur d'RMC ces dernières 24 heures. Et on va le commenter, ce meilleur, avec Rémi Barré, Emmanuel Dancourt, Thierry Moreau et Fred Hermel. On va démarrer avec un extrait des Grandes Gueules ce matin sur RMC. Faut-il faire payer l'impôt sur le revenu à tous les Français? Aujourd'hui, seuls 45% des foyers français payent cet impôt pour un montant moyen de 4 663 euros. Et 67% des recettes sont en fait payées par seulement 10% des Français les plus riches. Un impôt donc inégalitaire pour de nombreux spécialistes, mais pas pour l'enseignante Barbara Lefebvre.
Mais moi, je te dis que la TVA et la CSG, c'est déjà des impôts indirects qui pèsent lourdement sur les classes les plus pauvres. Donc, moi, je trouve normal que les classes les plus en difficulté n'aient pas en plus à payer un impôt sur le revenu qui serait essentiellement symbolique. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi on irait multiplier les tranches. Au contraire, continuons d'augmenter les impôts sur ceux qui sont les plus aisés, qui déjà, aujourd'hui, 2% des foyers les plus aisés payent 40% des recettes de l'impôt sur le revenu. C'est très bien. Et continuons à pousser.
Thierry Moreau, est-ce qu'il faut faire payer l'impôt sur le revenu à tous les Français?
Ah oui, moi je pense qu'il faut faire une réforme globale de l'ensemble de la fiscalité sur le revenu pour qu'il y ait beaucoup plus de tranches, pour qu'il y ait plus de gens qui payent des impôts et surtout
ceux
qui gagnent beaucoup d'argent en payent plus parce qu'on sait qu'aujourd'hui les très très hauts revenus payent moins que la classe moyenne supérieure.
Proportionnellement.
Proportionnellement, pardon, à leurs revenus. Et pour ce qui est des gens qui sont dans la partie la plus basse de l'échelle sociale, je pense que ça serait bien qu'il y ait un impôt sur le revenu, même symbolique, d'un euro, pour une sorte de participation à ce qu'on est en termes de communauté. Je pense que ça serait quelque chose de alors symbolique certes, mais impactant. Donc je suis pour effectivement l'impôt sur le revenu pour tous.
Universel, oui. Donc.
Et avec beaucoup plus de tranches.
Fred Hermel.
J'étais très heureux la première fois où j'ai fait ma feuille d'impôt, où j'ai payé les impôts. Un petit peu moins aujourd'hui. Parce que c'est plus les mêmes sommes. Donc c'est... Non, mais sérieusement, je pense que c'est... Je trouve que quand on te dit que tu es non imposable, je trouve que c'est un peu discriminant, en fait. C'est comme si tu n'étais pas citoyen de plein droit. Alors peut-être que c'est une fausse impression que je me fais.
D'accord.
Mais moi, je trouve qu'on te met un peu... Maintenant, toi, t'es un petit peu en dehors de la société. Donc je trouve que même si c'est totalement symbolique, hein, de quelques euros, etc., je pense que, oui, de toute façon, il faut multiplier les tranches, ça c'est clair, parce que...
Oui, il faut qu'il y ait des tranches aussi plus hautes pour ceux qui gagnent énormément d'argent.
Mais le côté non imposable, il y a quelque chose de... Ouais, de discriminatoire. Je pense que tout citoyen français qui travaille ou qui reçoit des aides, etc., devrait participer et se sentir membre de la communauté nationale.
J'ai été non imposable, je rebondis juste là-dessus, ouais, pour la première fois de ma vie l'année dernière. Je l'avais pas vu venir. Et c'est vrai que ça fait bizarre, honnêtement. Quand tu as toujours payé des impôts et que d'un seul coup, tu te dis, mais alors, je ne suis pas où je pensais être dans la société française, tout cas sur une année. Ouais. Je ne suis pas où je pensais être et d'un seul coup, tu te rends compte que tu appartiens à une autre tranche. Et ça fait bizarre. Après, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais alors, ça va être une sacrée usine à gaz, encore, cette histoire, hein, Thierry.
Les impôts,
maintenant, c'est l'impôt à la source. Donc, en fait, tu peux le prélever sur des aides, sur n'importe. Mais en fait, après, la bonne nouvelle pour toi, entre guillemets, c'est qu'ils ont relevé le barème par rapport à l'inflation. Donc, en fait, peut-être que tu aurais été imposable l'année dernière, mais c'est juste qu'ils ont relevé le barème. Donc, il y a plus de gens, en fait, qui sont sortis de l'impôt. Il y a moins de gens qui payent l'impôt sur le revenu cette année que l'année dernière.
C'est pas une bonne nouvelle.
À cause du changement de barème. Bien sûr.
Et puis, on a tous envie, enfin, j'espère qu'on a tous envie de participer à la vie de notre société, au financement de nos écoles, nos autoroutes, nos piscines, nos patinoires, enfin.
Mais tu y participes avec la TVA de toutes les manières.
Oh, bah, oui, de toute manière, mais c'est pas la même chose.
On est d'accord que le message non imposable, voilà. Il y a quelque chose de.
Ouais, je suis d'accord.
Citoyen de seconde zone, quoi.
Les GG ce matin sur RMC. Les stages de seconde servent-ils à quelque chose? C'est une nouveauté cette année. Plus de 500 000 élèves de seconde vont devoir effectuer un stage obligatoire en entreprise. Sauf que nombre d'entre eux n'arrivent pas à en trouver, bien sûr, car les entreprises sont déjà très sollicitées par les stages de troisième et par les alternants. Témoignage pour RMC de Marc. Il est patron d'une entreprise de bûcheronnage en Bretagne.
Ah. Est-ce que vous avez eu des demandes pour des stagiaires alors?
Oui.
Et comment ça se passe?
Eh ben, on peut pas les recevoir.
Pourquoi?
Parce que le bûcheronnage, c'est extrêmement dangereux et on peut pas recevoir des jeunes de 16 ans sur des activités dangereuses. Parce que au niveau de la législation, qu'est-ce que je fais avec un mineur qui a 16 ans? Est-ce que je lui mets une tronçonneuse dans les mains? J'ai aussi d'autres ouvriers qui, eux, sont créateurs de richesses autour du bois et c'est peut-être de eux dont je dois m'occuper déjà.
C'est souvent un vrai boulot, hein. C'est accompagner quelqu'un, le suivre. Ça te prend, tu vois, ça te prend 12-15 heures par semaine pour t'occuper.
J'allais dire 4 heures par jour, 3 à 4 heures par jour.
C'est
moi,
ça,
je vais pas être disponible pour ce que j'ai à faire.
C'est ça.
Emmanuel Dancourt, je vous sens dubitative après le témoignage de Marc.
Moi, je trouve ça génial, cette histoire de stage en seconde. J'ai vu, alors, mes jumeaux étaient en plein confinement, donc malheureusement, ça a sauté, mais ils avaient trouvé leur stage hein, dans des magasins.
C'est troisième.
Et stage de troisième, pardon. Ouais, mais c'est la même chose en seconde. Non, mais c'est la même chose.
C'est pas tout la même chose, parce qu'on a quand même 540 000 élèves qui arrivent au même moment.
Oui.
Au même moment, c'est-à-dire c'est fin juin. Sur deux semaines, au même moment, il faut trouver 540 000 stages.
C'est la même chose, sauf que c'est deux semaines, en fait.
Oui, d'accord. Et ben, organisons une grande bourse aux stages. En fait, ce qui est déséquilibrant dans cette histoire,
sur
c'est
un site internet,
quand on a des contacts, on a des parents qui ont des contacts, on a l'écosystème qui va avec, tu vas trouver ton stage facilement, il y aura toujours des familles qui sont défavorisées. Moi, je me suis retrouvée à trouver des stages pour les copines de ma fille.
Moi, j'en peux plus. Hein. Voilà. Les gens qui me demandent des stages, alors encore, ce serait pour eux ou pour des enfants d'amis. Mais là, maintenant, on me demande pour... l'enfant d'amis et tout, et là je dis non, ouais. Je dis non, mais c'est bon, quoi. Enfin,
bah moi aussi, en fait, je cherche des stages harcelé, pour la fille de ma coiffeuse, je cherche des stages, voilà. Mais en fait, ce qui manque, c'est une organisation autour de ça. Moi, je trouve l'idée géniale. Elle est où cette grande bourse aux stages, peut-être par ville, par région, pour moi ça devrait être régional, dans lesquels les élèves puissent piocher. Mais c'est génial d'avoir ce deuxième contact alors avec la vie professionnelle. Maintenant, il faut aider les enfants.
C'est formidable,
mais
encore faut-il aussi que les élèves fassent vraiment quelque chose. Parce que s'ils restent juste assis à regarder sur leur portable,
Moi j'ai vu des stages où ils étaient impliqués.
Ah ben, non, mais il y en a où ils sont impliqués.
Les gens font de moins en moins de photocopies dans les entreprises et ça, c'est un vrai problème pour les stagiaires.
Mais si tu les laisses, en fait, le problème, c'est que parfois, t'as les entreprises, t'as pas le temps, en fait. Non. C'est ce que disait Marc.
Mais si t'as pas le temps, t'accueilles pas.
C'est
ce qui se passe. Selon le SNES FSU, syndicat enseignant, aujourd'hui, entre 50 et 75% des élèves de seconde sont sans solution.
Thierry Moreau.
Encore une fois, c'est une super idée théorique.
Bah ouais.
Et il n'y a pas derrière la façon dont on l'applique. Et pour une petite PMI-PME, c'est un peu mon mantra aujourd'hui, mais une petite structure où le patron il est au four et au moulin et où tout le monde travaille beaucoup, prendre en charge un stagiaire, ça prend du temps. Si on veut faire du passage de témoin, lui apprendre vraiment quelque chose, qu'il fasse quelque chose, faut l'accompagner, lui apprendre. Donc c'est compliqué. Donc c'est encore un truc.
Et pourtant,
c'est
celles qui prennent, Thierry. Hein.
Attends, j'aurais juste terminé. Et qui pour le coup se transforme. Moi, je me souviens en seconde, une association locale m'a permis de faire mon premier stage à Ouest-France. J'ai fait mon premier article. J'étais en seconde. Mais on était très peu, c'était pas obligatoire. Là, comme l'a dit Rémi, on a un instant T, un flot de gens qui arrivent, c'est absolument ingérable. Donc là encore, c'est encore un truc bureaucratique où on a décidé.
Mais c'est une bonne idée.
Mais c'est une bonne idée, mais j'ai pas de problème avec ça.
Dans les boîtes, le problème. Déjà de s'en occuper, mais c'est que vous avez des clients où il faut passer le beau-fils, etc. Mais... Et là, c'est l'horreur parce que là, t'es obligé de prendre. Faut voir la pression qu'il peut y avoir pour beaucoup d'entreprises.
C'est clair.
C'est pas simplement le copinage, c'est l'obligation parce que c'est un client.
Non, c'est vrai que c'est compliqué. Et je te parle pas de ceux où le môme envoie même pas son CV. Hein. C'est est-ce que tu peux le prendre? Je dis bah oui. Enfin, faut m'en dire plus quand même. Oui, bah je te dirais ça. Mais comme si c'était en fait. Donc toi, t'es obligé d'aller faire les démarches.
Mais t'exiges toi, CV, lettre de motivation.
Bah, oui.
Moi, j'exige. Hein. Je ne transmets pas une demande s'il y a pas CV, lettre de motivation.
C'est comme les gens qui te demandent des billets pour les matchs de foot, quoi.
Ah bah ça, c'est
et surtout, avec et surtout
la et quand ils te disent non mais c'est en fait c'est pas pour moi
c'est pas pour moi,
c'est pour l'ami de machin à qui il doit un service. Ouais, c'est bon quoi.
Et surtout le petit truc, et je peux payer en plus, hein, parce que en fait en gros si tu veux l'avoir gratuitement en plus c'est encore mieux. Non mais
et c'est vrai.
Non mais c'est ça le petit
c'est vrai qu'il y a toujours ça.
Et je peux payer, hein.
Bah oui en fait oui.
bah oui tu vois. Non mais ça c'est déjà surtout des gens que je connais pas
mais je connais pas
non mais c'est un tel ou des gens qui t'ont pas parlé depuis 3 ans, ils t'ont pas parlé depuis 3 ans et d'un coup salut. Lui, ça fait longtemps. Je dis, bah oui. Justement, je pensais à toi. Bah non.
Apolline Matin, ce matin sur RMC. Votre look peut-il révéler vos idées politiques? Il y a bien quelques clichés bien ancrés, hein, comme le pull sur les épaules. A priori, c'est deux. Droite sur les épaules. De droite, évidemment. Sinon,
le pantalon velours.
Le pantalon velours.
De gauche.
Le sarouel.
Ah, de gauche.
Mais d'extrême gauche, enfin.
Excuse-moi, d'extrême gauche.
Voilà, le barbour, vous savez, l'impérable chasseur un peu vilain.
De droite. Ah non, pardon, de
la
droite.
Barbour.
De droite.
Ah, de droite. Chasseur, très, très de droite, hein, de droite, quand même. Bon, bref, vous voyez, il y a quand même quelques idées bien ancrées. Mais donc, il y a quand même des chercheurs belges qui ont mené une étude très poussée auprès de 7000 internautes, et Charles Magnin nous en dévoilait ce matin les résultats.
Pour leur étude, ils ont demandé à des internautes, plus de 7000, de classer les députés français uniquement en leur montrant leurs photos. Ils ont pris l'Assemblée de 2012, les photos de 447 hommes, et leur ont demandé, selon eux, s'ils étaient de droite ou de gauche, uniquement sur des critères physiques et vestimentaires. Hein. Aucune info personnelle. Résultat, les internautes ont très souvent visé juste et bien classé ces députés. On peut donc tirer un portrait robot. À leurs yeux, le député de droite a les cheveux courts, pas de lunettes, pas de barbe ni de moustache, et il porte une cravate bleue. Alors que le député de gauche a les cheveux plus longs, des lunettes, de la barbe ou une moustache, et quand il porte une cravate, elle est plutôt de couleur rouge.
Emma, vous avez un look plutôt de droite ou plutôt de gauche?
Alors, je sais que ceux en face de moi, ils ont des vestes, ils sont nickel, donc on pourrait dire qu'ils ont en plus la petite pochette de Fred. Là, on est sur des looks un peu. Alors, il y a le t-shirt Yoda là qui me perturbe chez Thierry. Oh, ah, je ne sais plus. Thierry serait plutôt centriste. Fred, désolé, on va te mettre à droite. Hein. Alors, tu t'habilles comme à droite. Hein.
Les choses. Tu t'habilles comme à droite. Je veux dire les vraies classes populaires, quand elles sont dans un endroit où on est en représentation, on fait très attention à s'habiller.
Ils sont dimanche.
Et on sent dimanche pour les émeutes. C'est vraiment les petits bourgeois, ou même les grands bourgeois, qui se la jouent à gauche, qui après arrivent devant des gens importants ou des trucs comme ça, avec la casquette.
Débraillés.
Débraillés. Vraiment, tu regardes les meetings de Georges Marchais dans les années 80, les ouvriers étaient tous endimanchés.
Est-ce que vous savez s'habiller?
Est-ce que j'ai le droit de révéler un secret, Fred? Est-ce que tu veux bien nous montrer ce que tu as sous ta veste? Moi, j'adore. C'est la classe absolue.
Ah, mais oui.
Les bretelles, c'est de droite ou de gauche?
Ah, les bretelles, c'est de droite.
C'est
non,
de droite.
Non,
mais si, la bretelle est de droite.
Mais c'est ma nouvelle lubie. C'est...
Ah, mais j'adore.
La semaine prochaine, ce sera fini, mais j'aime
bien. Ah, bon, déjà, bon, non.
Emmanuel Dancour, look de droite ou de gauche? Vous êtes souvent en pantalon en cuir, c'est de gauche.
C'est de gauche, d'accord.
Ah, ben, je crois. Donc,
je suis souvent, c'est vrai, je suis souvent.
Je
suis souvent veste en cuir aussi, hein.
Ben, son cuir, c'est de gauche.
Côté rock'n'roll.
Ben, c'est Loubar, c'est de gauche. Enfin, Emma.
C'est Loubar, ok, très bien.
Voilà, exactement. Bon, c'est de moins en moins, on va pas se mentir.
Après,
mais
ce qui est rigolo, c'est que dans les portraits robots qui ont été montrés à l'antenne et décrits pour ceux qui sont à la radio, il n'y a pas les députés comme Louis Boyard qui sont en pull tout le temps et en chemisette.
Ouais,
très clairement. Mais ce qui veut dire, en fait, que l'adage, l'habit fait le moine, finalement, quand tu dis l'habit ne fait pas le moine, ben, en fait, l'habit fait un peu le moine quand même.
Le petit polo manche.
Oui, mais t'as rarement des gens de droite en sarouel. Par exemple, ça c'est un
truc. La bif fait un peu le moine.
La bif fait le moine. Ah bah oui, évidemment, je suis assez d'accord avec vous. Mais je pense qu'on peut quand même trouver des gens de gauche à Arcachon avec une chemisette et un peut-être pas en chemisette. Non.
Ah mais,
en tout cas, avec un pull sur les épaules, c'est possible.
En tout cas, c'est des gens avec un certain pouvoir d'achat.
Oui. Donc,
c'est des gens de gauche avec un certain pouvoir d'achat.
On parle que des hommes. On est d'accord. On parle pas beaucoup des femmes dans leur. Ils ont montré que des hommes. Hein, dans
oui, parce que je pense que nous, on peut tellement s'habiller comme on veut qu'en fait, il y a pas de stéréotype finalement chez les femmes. Allez, dans un instant, 20 000 euros, Rémi.
Elle peut tourner à droite, elle peut tourner à gauche.
Ah oui. C'est vrai.
C'est la roue. C'est la roue RMC jusqu'à 20 000 euros à gagner sur RMC. L'alerte, elle vient de tomber. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. 5 minutes pour envoyer le mot roue par SMS jusque donc dans 5 minutes, hein, au 7-32-16. Roue par SMS au 7-32-16 jusqu'à 20 000 euros à gagner.
Allez, dans un instant, RMC s'engage avec vous et on tentera d'aider des auditeurs qui ont un problème de fibre. Voilà, il y a des centaines de milliers de Français qui attendent désespérément la fibre. Eh bien, eux, on va essayer de les aider avec Amélie Rosic. Et puis ensuite, on s'intéressera au coup de gueule d'Anne Hidalgo qui s'énerve contre ceux qui râlent contre les JO. Mais est-ce que les Français, finalement, sont devenus des rabat-joie? On râle pour tout, pour les salaires, pour le climat, la météo, pour les JO. Est-ce qu'on est des rabat-joie? On vous posera la question à 14h sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Et tout de suite, c'est le moment de vous aider avec Amélie Rosic. RMC s'engage avec vous.
Estelle Midi.
RMC s'engage avec vous.
Et aujourd'hui, Amélie Rosic, on parle de fibre optique, ou plutôt du manque de fibre optique.
Absolument, parce que dans certaines communes, comme au Hayan, c'est près de Bordeaux, eh ben, il n'y a pas suffisamment de prise fibre pour raccorder tout le monde à Internet, figurez-vous. Et ça peut être très handicapant, on imagine pourquoi. Mais alors, particulièrement, quand on est à un cabinet médical, et oui, comme celui d'Émilie, qui nous a contacté pendant 3 ans, cette kiné a bataillé avec une connexion ADSL. ADSL.
Wow. Ça doit encore faire les petites frites.
Oui, connexion ADSL instable, voire franchement inexistante. Et évidemment, elle a perdu de nombreux patients.
Ben oui.
Les gens appelaient, ça leur disait que le numéro n'était plus attribué, plus d'Internet. J'ai une de mes collègues qui est orthophoniste, qui fait des visios avec certains patients qui ne peuvent pas se déplacer. Il n'y avait plus de visio.
Alors après des négociations interminables avec son fournisseur qui s'appelle OVH, c'est un opérateur spécialisé dans les entreprises, un énième technicien se déplace il y a un mois, trouve la solution et installe la fibre. Eureka, tout fonctionne parfaitement. Ah bah l'histoire ne s'arrête pas là, ma chère Estelle, sinon je ne serais pas devant vous.
C'est très court comme chronique. Non,
voilà, fouille un peu. On aime bien les chroniques qui se finissent bien, mais là ça finissait trop vite. C'est que la voisine d'Émilie vient au cabinet parce qu'elle a un rendez-vous de kiné, et là, mauvaise surprise.
Et elle me dit, oh là là, j'ai plus d'internet, ça s'est coupé d'un coup, mercredi dernier. Le technicien, il a coupé le câblage de fibre de chez mes voisins pour pouvoir nous brancher la fibre. Comme m'a dit OVH au téléphone, ce n'est plus votre problème, maintenant c'est le problème de vos voisins.
Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que le gars, il a coupé la fibre d'un appartement pour le mettre dans celui d'à côté en se disant, bah tiens, elle va râler pendant 3 ans, puis après, donc, ils couperont la fibre pour la remettre. Mais c'est quand même incroyable. Et donc, évidemment, bah, c'est pour ça qu'Émilie vous a contacté.
Bah oui, en fait, c'est presque plus
elle
pour
est
elle.
Moi, j'aurais rien dit.
C'est hyper sympa. C'est quasiment plus pour elle. C'est pour ses voisins. Bah d'ailleurs, l'opérateur lui a dit, vous devriez être heureuse. Voilà. Pour vous, tout va bien. Mais elle pense à ses voisins.
Elle
qui sont aussi ses patients.
Ah oui,
évidemment. Sûr, oui. Et qui sont donc victimes de débranchage sauvage. C'est comme ça que ça s'appelle, une pratique qui est évidemment interdite et qui est pourtant trop répandue, nous dit l'ARCEP, qui est le gendarme de Télécom. Dans le cas d'Émilie, le câble qui devait permettre de raccorder son cabinet à la fibre, il est endommagé, il y a eu des travaux dans la rue, ça a écrasé les câbles. Bon, faudra le changer. Mais au lieu de ça, vous l'avez compris, le technicien a chippé le câble de la voisine.
Malin. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Eh bien, commencez par signaler l'incident sur la plateforme en ligne J'alerte l'ARCEP, elle est accessible à tous. Et donc si vous rencontrez le même type de problème, et vous l'avez compris, ça arrive de temps en temps, particulièrement dans les petites communes, n'hésitez pas à le faire. Et puis nous, évidemment, on a demandé des comptes à OVH. En guise de dédommagement, l'opérateur fait un geste commercial, 250€ plus 3 mois de forfait gratuit pour Émilie. Pour sa voisine, le fournisseur nous a dit qu'ils n'avaient pas de contrat, ils n'étaient pas liés par un contrat avec elle, puisqu'elle est abonnée ailleurs. Si, mais quand même, on a poussé un peu. Et donc, il s'engage à se montrer collaboratif avec l'opérateur concerné.
Donc, ça veut rien dire.
Mais évidemment, on est là. Et donc, on n'est pas le gendarme des télécoms, mais on est le gendarme de nos auditeurs. Donc, on y veillera.
Non, mais c'est incroyable cette histoire de débranchage.
Mais ça arrive très souvent.
Je ne savais pas. Donc, vous nous apprenez plein de choses à chaque jour dans l'émission Amélie Rosic, tous les jours, 13h50 dans Estelle Midi. RMC s'engage avec vous. Amélie, est-ce que vous faites partie de ces Français rabat-joie? Vous n'êtes jamais contente. Le temps, ça ne va pas. Votre salaire, ça ne va pas. Votre patron, ça ne va pas. Rien ne va, vous voyez.
Non, mais alors on va encore me taxer de encore parler du Brésil. Alors, excusez-moi, c'est vrai. Mais comme j'ai quand même une double culture, et alors que la culture brésilienne est à peu près aux antipodes de ça, où chez nous, c'est tout va bien, ce qui n'est pas forcément bien au quotidien. Tout va bien tout le temps, en fait. Je pense que j'ai un équilibre pas mal entre les deux. Voilà, ça s'équilibre. Mais je peux râler, oui, bien sûr, je peux râler.
Je vous dis ça parce qu'il y a Anne Hidalgo.
Oui, je sais,
elle a dit qu'on était des j'ai peine à jouir. On va se demander si les Français sont devenus rabat-joie. Ce sera dans un instant dans Estelle Midi. On attend, on vous attend au 32-16 et sur l'appli RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.